Nous venons de chanter que notre Dieu est le plus grand et le plus fort. Et pourtant, quand il s'est révélé en tant qu'enfant, il s'est révélé d'abord à des bergers et également à des mages. Et je voudrais vous inviter à lire ce matin un court extrait de l'évangile de Matthieu au chapitre 2, dont le titre pourrait être « La visite des mages ». C'est ce que l'on trouve souvent dans nos Bibles. Matthieu au chapitre 2, à partir du verset 1. Jésus était né à Bethléem, en Judée, sous le règne du roi Hérode. Or, des mages venant de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile se lever et nous sommes venus lui rendre hommage. » Quand le roi Hérode apprit la nouvelle, il en fut profondément troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il convoqua tous les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi que comptait son peuple. Et il leur demanda où devait naître le Messie. « À Bethléem, en Judée, lui répondirent-ils. Car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, village de Judée, tu n'es certes pas le plus insignifiant des chefs lieux de Juda. Car c'est de toi que sortira le chef qui, comme un berger, conduira Israël, mon peuple. » Là-dessus, Hérode fit appeler secrètement les mages et se fit préciser à quel moment l'étoile leur était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez là-bas, renseignez-vous avec précision sur cet enfant. Puis, quand vous l'aurez trouvé, venez me le faire savoir, pour que j'aille, moi aussi, lui rendre hommage. » Quand le roi leur eut donné ses instructions, les mages se mirent en route. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle parvint au-dessus de l'endroit où se trouvait le petit enfant. Et là, elle s'arrêta. En revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à genoux, ils lui rendirent hommage. Puis, ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Cependant, Dieu les avertit. Par un rêve de ne pas se retourner auprès d'Hérode, ils regagnèrent donc leur pays par un autre chemin. Jusqu'ici notre lecture, je vous invite à prier. Notre Dieu et Père, ta parole est la vérité. Tu es ce divin potier qui nous forme, nous transforme jour après jour. Que cette parole qui est tienne nous transforme encore en ce jour. Parle-nous, remplis-nous de ton esprit, Seigneur, pour recevoir ce que tu as à nous dire ce matin. Amen. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes au début de l'année 2017, n'est-ce pas ? L'aube d'une nouvelle année. Avec ces zones connues, il y a des choses qui sont tout à fait prévisibles, les élections de 2017, les 500 ans de la réforme luthérienne, la suite de notre parcours vitalité en Église. Il y a des choses qui sont à peu près prévisibles à l'heure actuelle, d'autres pas du tout. Et nous rentrons dans cette année, tranquillement, 2017, en nous souhaitant plein de belles choses, en nous souhaitant des bons vœux, comme si la parole que nous allions dire, était performante. Elle pouvait réaliser ce que je souhaitais à l'autre. Nous échangeons des bons vœux, jour après jour, les autorités le font aussi, expriment plus ou moins, finalement, sincèrement, ainsi, nos souhaits. Mais derrière ces vœux, que se cache-t-il ? Derrière, vous savez, toutes ces petites manies que nous avons parfois, que nos contemporains ont aussi. Ces façons de dire « je fais ceci ou je ferai cela, mais je croise les doigts pour que ça fasse, ça marche. » Ou « oh, pour le moment, je suis en bonne santé, je touche du bois. » Ou de la peau de singe, et alors il vous touche le visage, pour certains. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces petites manies ? Et finalement, si derrière toutes ces petites choses, il ne se cachait pas un petit désir d'une intervention divine, d'une intervention tout autre, d'un tout autre qui pourrait agir, intervenir dans nos vies, éviter que les choses que nous ne souhaitions pas ne se réalisent pas, et que quelque chose que nous souhaitons se réalise. Mais nous ne savons pas qui, à qui nous adresser. Alors avec ces deux éléments, avec ces paroles que nous pouvons parfois croire très performantes, très agissantes dans nos vies, et puis ce contexte de 2017 qui s'ouvre devant nous, avec ces zones connues et ces zones inconnues, nous sommes en chemin. Avec peut-être des zones d'ombre pour chacune et chacun d'entre nous, peut-être même des inquiétudes, des peurs. Et pourtant, nous aimerions parfois traverser ces années qui se suivent à la manière de cet hymne, de cette déclaration de foi, cette confession d'amour que nous connaissons bien, que vous avez certainement en tête, qui dit ceci, « Comme les rois mages en Galilée, suivez des yeux l'étoile du berger, je te suivrai où tu iras, j'irai, fidèlement, comme une ombre, jusqu'à destination. » Ah, ce qu'on aimerait pouvoir avoir ça en tête, vivre et rentrer en 2017 légèrement, la tête dans les étoiles, le pas léger, le sourire contagieux. Alors c'est vrai, si on avait juste cette petite chanson pour le récit des mages, on aurait tendance à penser que leur vie a été toute rose. Mais le texte de l'évangile que nous avons lu nous révèle que ces mages ont évolué dans un monde tout à fait différent que cette belle chanson populaire des années bissextiles. Ou yéyé, peut-être, je ne sais pas, je ne connais pas trop l'histoire. On a parlé de Garcimore tout à l'heure. Alors, ce que je voudrais vous inviter ce matin, c'est simplement de suivre un petit peu le cheminement des mages jusqu'à leur destination. Alors, est-ce qu'ils ont suivi l'étoile fidèlement jusqu'à destination? C'est ce que je vous invite à voir. On va voir un tout petit peu leur cheminement et voir qu'est-ce qu'on peut en tirer pour notre année 2017 qui arrive. Alors, les mages, qui sont-ils? Petite question préalable pour savoir un petit peu à qui on a affaire. Alors, ce sont des personnages dont on ne sait que peu de choses. Sont-ils trois? Parce qu'ils ont apporté trois cadeaux. Sont-ils des rois? S'appellent-ils Melchior, Balthazar et Gaspard? Le texte ne nous dit pas. La seule chose que nous savons, c'est que ce sont des mages qui viennent d'Orient, autrement dit qui viennent de très loin. Et les mages étaient à l'origine des personnes qui avaient des compétences ésotériques, qui avaient des capacités remarquables pour lire les étoiles, parfois interpréter les rêves. C'est un peu les Panoramix d'Orient, quoi, ou les Gandalf, selon vos références. Et ce genre de personnes n'étaient pas très très bien vues dans la société juive. Pensez-vous, les textes bibliques sont très clairs sur la consultation des astres, consultation des divinités, etc. Mais ici, le texte biblique ne les condamne pas. Ils sont plutôt décrits comme des astronomes. Vous savez, ces personnes qui sont la tête dans les étoiles et qui cherchent à avancer. Il n'y a pas de regard critique dans l'Évangile sur ces personnes-là. Au contraire, elles sont présentées comme des personnes qui suivent et qui sont les seules, avez-vous remarqué dans ce récit, à suivre l'orientation de Dieu, ces mages. Personnes un peu bizarres qui viennent chercher à adorer un Dieu qu'ils connaissent bien imparfaitement. Alors une petite parenthèse, une petite remarque sous forme de parenthèse. Je me pose la question de qui sont ces mages aujourd'hui? Qui sont ces personnes qui cherchent Dieu, alors consciemment ou inconsciemment, avec parfois des prismes tout à fait déformés? Qui est-ce qui, autour de nous, cherche Dieu, y compris par des choses qui nous semblent tout à fait discutables? L'horoscope, vous avez bien des collègues, amis, qui consultent l'horoscope chaque matin pour savoir, plus ou moins avec confiance, ce qui va se passer. L'astrologie, la voyance, je veux savoir ce qui va m'arriver demain, pour orienter mes décisions. J'ai eu des proches parents qui ont été bercés d'illusions par ces réalités-là, à tel point qu'un jour, ils ont appelé une voyante pour demander l'état de santé de ma grand-mère. Et la voyante de répondre, elle va aller de mieux en mieux. Sauf qu'au moment même où ils avaient appelé, elle était décédée. Alors avec une perspective chrétienne, on peut dire, oui, elle va de mieux en mieux. Mais bon. Alors certes, les amis, certes, la parole de Dieu condamne, ne nous encourage pas, bien sûr, à ces réalités. Mais en voyant la sincérité de cœur de ces mages, je me demande et je prie que Dieu nous donne la sensibilité pour les personnes qui sont autour de nous et qui cherchent de façon inconsciente Dieu. Parce que qui est-ce qui peut dire de quoi demain sera fait ? Qui est-ce qui peut guider nos lendemains si ce n'est Dieu ? Mais que le Seigneur nous donne en tout cas la sensibilité pour accompagner ces personnes, ces petits mages, dans leur quête spirituelle. Il ne s'agit pas ici d'un discours relativiste en disant « tout est bon », mais simplement que le Seigneur nous donne d'être sensibles à ces mages qui sont autour de nous pour avoir des paroles bien à propos. Et pas simplement dire « le livre du Lévitique condamne l'astrologie ». Que le Seigneur nous donne cette sensibilité pour nos contemporains qui sont perdus. Alors une fois qu'on a dit ça, fermons la parenthèse de cette remarque. Commençons le cheminement avec les mages. Première étape, quelle est la première méthode qu'utilisent ces mages ? L'étape numéro 1, ils observent et utilisent leur cerveau, leur intelligence. Alors ils regardent avec leur connaissance les étoiles. Ils observent et constatent, en regardant leur plan, en regardant le ciel, qu'il y a quand même une étoile bizarre là-bas, qui scintille. Ils utilisent leur raison, leur intelligence. Alors donc ils descendent et reprennent pied sur terre et se rendent du coup vers Jérusalem, parce que cette étoile bizarre annonce certainement la naissance de ce roi des Juifs. Comment ont-ils eu connaissance de cette information ? Le texte ne nous le dit pas. Le texte nous décrit simplement la mise en route de ces mages venus d'Orient. Alors, c'est simple, si nous voulions aller voir le nouveau président de la République qui est né aujourd'hui, on irait où ? Par défaut, certainement à la capitale. Parce que si le président naît aujourd'hui, il est à Paris. C'est sûr. Et ce que font ces braves mages ? Le fils du roi doit vraisemblablement naître à Jérusalem. Alors allons à Jérusalem. Allons-y. Et là, c'est l'étape numéro 2. Ils prennent conscience des limites de leur intelligence, de leur raisonnement. Ils vont chercher à adorer ce Dieu, ce roi des Juifs, pardon, mais ils ne savent pas où il est né. Ils se doutent bien peut-être à Jérusalem, mais où ? Quel quartier ? Quelle rue ? Bref, ils prennent conscience que leurs connaissances et leurs raisonnements sont limités pour aller demander conseil à un autre. Ils prennent conscience de la finitude de leur intelligence pour aller consulter. Pas un psy, peut-être un psychopathe, en parlant d'Hérode, peut-être. Mais il n'est quand même pas aisé pour des mages, des savants, de reconnaître leurs limites, de reconnaître qu'ils ont besoin de la sagesse des autres. Je ne sais pas si vous connaissez Hélène Keller. Qui est-ce qui connaît cette dame ? Hélène Keller est une militante politique américaine qui est aveugle et sourde. Elle est née à la fin du 19e siècle, en 1880. Elle est la femme, donc une femme née aveugle et sourde. Et elle a été la première dame, première personne handicapée ou en situation de handicap à obtenir un diplôme universitaire. Et ce qu'elle raconte, c'est lorsque le médecin lui a dit qu'elle resterait toujours dans sa prison de douleur et de faiblesse, voici ce qu'elle a répondu à ce médecin. « Oh, eh bien, il y a beaucoup de vie à trouver dans nos limites si nous ne nous fatiguons pas à les combattre. Il y a beaucoup de vie, au pluriel, à trouver dans nos limites si nous ne nous fatiguons pas à les combattre. » Prendre conscience des limites de notre intelligence, de notre raisonnement, de notre sagesse. Voilà ce qui va pousser les mages à aller consulter Hérode. Alors c'est vrai qu'en tant que lecteur de l'Évangile habitué un tout petit peu à Hérode, on se dit quand même quelle drôle d'idée. Parce que ce personnage est quand même plus connu par sa paranoïa, sa brutalité, que pour sa piété et sa sagesse. Pourquoi aller demander conseil, chers amis, à ce Dark Vador d'Israël? Quelle idée! Mais les mages ne se posent pas cette question. Et se posent cette question simplement. Et si ce personnage, aussi bizarre soit-il, pouvait être une aide pour arriver à destination? Alors c'est vrai, nous sommes un peu observateurs et nous connaissons bien tout ce récit du chapitre 2 de Matthieu. Nous savons ce qui va se passer ensuite, le massacre de ses enfants de plus de 2 ans. Et nous sommes un peu spectateurs de ce que ces mages sont en train de faire. Un peu comme, vous savez, quand on regarde un spectacle de Guignol quand on est tout petit et qu'il y a le gendarme qui est derrière Guignol, on dit « Il est derrière toi, il est derrière toi ». On a envie de dire à ces mages « Arrêtez-la, arrêtez-la, tout de suite, changez de chemin ». Et pour autant, les mages questionnent ce personnage. Pourquoi ? Point d'interrogation. Parce qu'il était l'autorité en place, le roi des Juifs en place. Troisième étape dans le cheminement. Une fois qu'ils ont utilisé leur raisonnement, une fois qu'ils ont constaté la limitation de leur raisonnement, leur intelligence, leur sagesse, ils vont consulter donc Hérode. Hérode lui-même va aller consulter les autorités juives, autorités religieuses, pour demander, parce que lui aussi prend conscience vraisemblablement de ses limites, mais là plutôt en termes de piété et de connaissance de la parole de Dieu, demander où doit naître le Messie. Et nous connaissons bien cette prophétie de Michée qui annonce la naissance du Messie à Bethléem. Alors Hérode transmet simplement ce que les messages, ce que les scribes, les spécialistes de la loi, lui ont dit. Il doit naître à Bethléem. Et que font ces braves mages? Est-ce qu'ils discutent l'autorité de ce vieux livre biblique? Est-ce qu'ils discutent la pertinence d'aller dans cette petite ville? Pas du tout. Ils font confiance à la parole de Dieu et aussi aux autorités qui sont là. Et ils se mettent en route. Et là, c'est la quatrième étape dans leur cheminement. L'intervention divine. Parce que là, c'est ce qui semble vraiment le plus étrange. Bon, on peut dire qu'une nouvelle étoile soudaine apparaisse, c'est quand même étrange. On peut quand même l'expliquer vraisemblablement par des raisonnements astronomiques. Mais là, le texte nous dit que l'étoile bouge et guide les mages. Alors parfois, ça nous fait sourire aux fêtes de Noël lorsqu'on voit nos petits-enfants en train d'avancer à la suite de ces étoiles déguisées en mages. Mais quand même, c'est quand même étrange. Imaginez, vous êtes perdu au milieu du désert et une belle étoile vous ramène chez vous. C'est bucolique, c'est beau quand même, c'est magnifique. Les mages sont presque au paradis, la tête dans les nuages. Mais il n'en demeure pas moins qu'ils ont quand même comme objectif de trouver la star du moment, le roi des Juifs. Alors, l'étoile avance, les guide, mais là, encore plus extraordinaire, l'étoile s'arrête, juste au-dessus d'une maison. Bon, c'est quand même un peu étrange. Et qu'est-ce que ça produit, tout ça, chez les mages? Autant la naissance du roi des Juifs pour Hérode crée un grand trouble, autant le fait de voir l'étoile s'arrêter sur cette maison provoque chez les mages une grande joie, une simple joie, celle d'être arrivé à destination, celle d'être arrivé devant cet enfant, devant cet enfant qui est bien menacé, nous le savons, devant cet enfant réfugié, migrant de son époque, qui naît dans un contexte de menace, d'injustice. Et pourtant, cet enfant, c'est Dieu avec nous. Alors, quelle joie! Et c'est à ce moment-là que nous voyons cette petite parenthèse dans ce chapitre 2 qui est si violent, si rempli de manigances, de discrétion, ce petit moment de répit. Les mages s'approchent de l'enfant et viennent se prosterner comme il l'avait dit. Mais l'intervention de Dieu ne s'arrête pas là, ne s'arrête pas simplement à cette étoile qui bouge dans le ciel. Elle les avertit, la présence, l'intervention divine les avertit de ne pas retourner voir Hérode. Et qu'est-ce que font ces mages ? Ils obéissent, simplement. Avez-vous remarqué la simplicité de ce récit ? La simplicité d'action de ces mages. Alors voilà, ils ont utilisé leur raisonnement, ils ont eu conscience de leurs limites, ils ont consulté les autorités politiques et religieuses de leur époque, ils ont fait confiance à la parole de Dieu, et ils ont fait aussi confiance surtout à Dieu, qui est intervenu de façon directe. C'est bien, mais nous sommes 2017 ans environ à peu près, un peu plus selon les calculs des théologiens et exégètes. Mais qu'est-ce que le cheminement de ces braves mages, ces savants de l'époque, peuvent nous apporter pour l'année 2017 ? Parce que nous sommes comme eux. Nous cheminons dans un monde qui est encore plein d'injustice, plein de cruauté. Nous cheminons vraisemblablement vers des choses qui sont connues et d'autres qui le sont beaucoup moins. Nous ne savons pas ce qui va nous arriver. Et pourtant, nous sommes invités à cheminer, à suivre aussi à notre tour l'étoile. Mais quelle est cette étoile que nous devons suivre ? Quelle est cette étoile que nous devons suivre, chers amis, en 2017 encore et toujours ? Je vous propose un tout petit verset, un texte que vous connaissez vraisemblablement bien, qui va pouvoir nous guider. Il se trouve dans le livre de l'Apocalypse, et c'est Jésus qui parle. Voici ce qu'il dit. « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour rendre témoignage à ces vérités destinées aux églises. » Nous sommes tout à la fin du livre de l'Apocalypse. Et voici comment il se présente. « Je suis le rejeton de la racine de David, son descendant, fils de David qui devait naître à Bethléem. » Et voici ce qu'il poursuit. « C'est moi, l'étoile brillante du matin. » C'est moi, l'étoile brillante du matin. L'étoile que nous avons à suivre pour l'année 2017, c'est le Christ. Lui qui chemine devant nous pour nous guider. Lui qui chemine derrière nous pour nous pousser lorsque nous faiblissons. Lui qui est à notre gauche pour nous relever lorsque nous avons un genou à terre. Lui qui est à notre droite pour nous prendre par l'épaule et nous aider à marcher lorsque nous n'en pouvons plus. Voilà l'étoile que nous sommes appelés à suivre cette année. Alors, comme les mages, nous aurons cette année à utiliser notre intelligence, vraisemblablement notre raisonnement, lorsque nous aurons à évoluer dans notre année, à faire preuve de sagesse, de discernement, dans nos actions, dans nos paroles, dans notre environnement du travail. Nous pourrons aussi reconnaître, et nous devrons certainement reconnaître, que nous avons besoin des autres, que nous sommes bien limités. Nous devrons consulter, nous confier dans la parole de Dieu, la méditer, parce que c'est là que se révèle sa volonté. Et il y a un élément en plus, le bonus du chrétien. C'est que cette étoile, elle n'est pas dans le ciel. Elle est où ? Elle est en nous. Nous avons le privilège d'avoir le Saint-Esprit en nous. Saint-Esprit qui est présence de Dieu en nous et qui déploie la vie du Seigneur. Et nous aurons, dans les dimanches qui vont venir, une série de prédications sur le Saint-Esprit, vivre l'Esprit aujourd'hui. Et nous avons ce privilège, chers amis, de ne pas avoir l'étoile au loin, une étoile qui pourrait s'éteindre, mais nous avons l'étoile qui est au fond de notre cœur. Alors finalement, nous n'avons pas à chercher l'étoile. Nous avons à cheminer dans cette année 2017, conscients que l'étoile vit en nous. Alors pour terminer, et en guise de conclusion, parce qu'une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit, mais oui, voilà ce que l'on peut utiliser pour cheminer en 2017, une fois qu'on a dit que notre étoile n'est plus dans le ciel, mais dans notre cœur, que reste-t-il ? Quel était, chers amis, le but des mages ? Est-ce que c'était simplement de s'arrêter là où l'étoile allait s'arrêter, Que disent-ils à Hérode ? Nous venons nous prosterner, rendre hommage, adorer Dieu. Adorer Dieu. Et si pour conclure, conscient que nous sommes guidés par Dieu, nous ayons à cœur cette année comme résolution principale et essentielle l'adoration. Si nous étions une église d'adorateurs cette année, que cette adoration qui est l'essentiel de notre vie ne soit pas étouffée par nos activités, nos contraintes. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, c'est une famille assez riche qui avait baptisé son nouveau-né. Et ils étaient heureux. Donc ils ont accueilli plein de gens dans leur manoir. Plein de gens. Et puis ils ont enlevé leur manteau et ont posé tout ça sur un lit, dans une pièce désignée. Et bientôt est venu le but principal de leur rassemblement. Il faut qu'on honore et qu'on voit quand même ce bébé. Il est où ce bébé ? C'est pas papa outé, hein, mais c'est où est ce bébé ? Et ils ont commencé à le chercher partout, dans toutes les pièces. Jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il était sous les manteaux, ce bébé. Presque à l'étouffement. Et l'adoration, qui est le cœur de notre vie chrétienne, ne risque-t-elle pas des fois d'être étouffée par ces manteaux que sont l'activisme, même dans l'Église, les contraintes de la vie, les contraintes du temps, l'adoration. Et si nous redécouvrions tout à nouveau cette année ce qu'est l'adoration ? Et si nos résolutions se rimaient simplement avec ce petit mot, moi je te souhaite d'être un bon adorateur cette année 2017. Un simple adorateur, comme ce petit garçon qui un jour va à l'église, non sans mal, mais il voulait prendre son ours en peluche avec lui. C'est ce qu'il avait le plus à cœur. Ses parents ont protesté, on n'emmène pas de jouets à l'église. Mais Franck a insisté. Son petit nounours était tellement important pour lui qu'il doit le suivre partout. Et puis est venu le moment des offrandes. Et quand les pochettes d'offrandes sont passées, le petit Franck a mis son ours dans la pochette, avec quelques pièces de monnaie. Et plus tard, lorsqu'il a été questionné, « Mais pourquoi as-tu fait ça ? Pourquoi as-tu fait cela ?» Eh bien, Franck a répondu, « Les sages, les mages, ont apporté des cadeaux à Jésus, de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Moi, j'ai pas d'or. Je n'ai rien, si ce n'est que ce petit ours. J'ai donc juste donné ce qui était le plus important pour moi. » Voilà une adoration simple. Des adorateurs simples. Nous souhaitons et nous souhaitons les uns aux autres d'être des adorateurs simples en 2017. Une adoration que je vais vous inviter à vivre encore un court instant après ces moments de partage et de méditation. Une adoration qui n'est pas que le chant simplement, mais qui est l'expression de ce qu'est Dieu pour nous. Et je vous ai mis tout à la fin des façons d'adorer le Seigneur, selon le théologien James Packer. Louer Dieu, l'adorer, c'est le louer pour tout ce qu'il est et pour toutes ses réalisations. L'adorer, c'est le remercier pour ses dons, pour sa bonté pour nous. L'adorer, c'est aussi reconnaître qu'il est Dieu. C'est lui confier nos propres besoins et ceux des autres. L'adorer, c'est lui offrir nos dons, nos capacités, notre service et nous-mêmes. L'adorer, c'est apprendre à obéir à sa parole. L'adorer, c'est apprendre aussi à parler aux autres de sa valeur pour nous. Aussi, nous ne sommes pas que des adorateurs pour nous-mêmes. Le Seigneur, par ses mages, nous invite à sortir de notre zone de confort, de notre orient à nous-mêmes bien connu, pour aller au-devant des personnes qui cherchent encore l'étoile qui les conduira jusqu'à leur destination. Je voudrais, chers amis, vous inviter à prendre un instant d'adoration. Nous avons laissé ces quelques sujets. Prenez le temps, dans le secret de votre cœur, de vous confier au Seigneur et de choisir un ou deux ou trois, peu importe, de ces sujets et de lui confier votre adoration. Je vous invite à ces instants.